Bonjour.
Bonjour.
Vous vous levez à quelle heure le matin ?
En week-end ou quand on travaille ?
C'est vrai que j'ai jamais travaillé.
Je me lève.
Moi, je suis étudiant.
Autour de 8 heures.
Ah non, c'est café à 10 heures.
Moi, généralement, je me lève.
8 heures moins le quart.
Moi, de matin ?
Non, je suis pas trop du matin, effectivement, mais je me force à me lever le matin.
6 heures.
9h30, mais je fais une demi-heure de gym.
Ah, j'ai eu des coups de pompe, oui, donc. Mais ça passe, ça dure quoi ?
Puis j'avais les enfants à préparer, alors là, c'était.
Ouais, c'était du travail. Je me levais 8 heures moins le quart, c'était dur, hein.
C'est quoi ton plus vieux souvenir ?
J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroirs, encombré de bilans, de verres, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances. Cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un immense caveau qui contient plus de morts que la fosse commune. Je suis un cimetière abhorré de la lune, où comme des remords se traînent de longs vers qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chères. Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, où gît tout un fouillis de modes surannées. Où les pastels plaintifs, où les pâles bouchées, seuls, respirent l'odeur d'un flacon débouché. Rien n'égale en longueur les boiteuses journées, quand sous les lourds flocons des neigeuses années l'ennui, fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. Désormais, tu n'es plus ô matière vivante, qu'un granit entouré d'une vague épouvante, assoupi dans le fond d'un Sahara brumeux, un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux, oublié sur la carte, et dont l'humeur farouche ne chante qu'aux rayons du soleil qui se couche.
Thank you.
dormir debout. Reportage. Donc voilà la salle où on entrepose les souvenirs des personnes qui ont décidé de nous les confier. Là, on a les plus récents, et ceux qui sont obsolètes sont dans une autre salle. Bon, nous, on va rester ici puisque les souvenirs obsolètes sont fragiles et tout le monde ne peut pas y accéder. Alors, pour le classement, les souvenirs sont classés par ordre alphabétique et chronologique. Ça, c'est merveilleux parce que c'est très pratique pour se les retrouver. Pour les récupérer, ce qui se passe, c'est que les personnes qui souhaitent nous confier leurs souvenirs prennent rendez-vous, on fixe une date d'extraction, et la personne revient à la dite date avec en sa possession des objets liés à ce souvenir.
C'est qui les types de personnes qui viennent? Il y a de tout
Un peu de tout. Souvent des personnes âgées qui commencent à oublier des choses. Parfois des personnes qui ont vécu des traumatismes pour oublier justement. On a quand même beaucoup de souvenirs heureux que les gens n'ont pas envie de perdre.
Et donc, une fois que vous avez extrait le souvenir, comment ça marche?
Une fois le souvenir extrait, deux choix s'offrent à eux. Le cristalliser, c'est-à-dire le figer tel quel, ou bien le conserver en protégeant son potentiel de fiction.
C'est-à-dire?
Je vous explique. Les souvenirs cristallisés sont intouchables et immuables. Une fois qu'on l'a figé, il est impossible de revenir dessus.
Donc on le garde tel quel?
Oui, enfin c'est un peu comme prendre une photo si vous voulez. Alors que, en conservant le potentiel de fiction, on ne garde que l'essence du souvenir. On n'ajoute absolument aucune espèce de conservateur. Bien sûr, la plupart des gens préfèrent la cristallisation du souvenir. Ça, c'est parce qu'ils préfèrent envisager de pouvoir venir le consulter à l'identique et comme bon leur semble.
Ils peuvent venir quand ils veulent. Une fois que le souvenir est stocké, tout le monde peut venir l'ausculter, le regarder, sans souvenir, sans rappeler.
Quand ils veulent, durant les périodes de consultation, c'est-à-dire du lundi au vendredi, de 13h à 17h.
Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on se souvienne plus qu'on ait stocké un souvenir chez vous?
J'imagine que ça arrive, mais nous, ce qui se passe, c'est qu'on leur donne un certificat de conservation à l'issue du processus d'extraction. Donc, a priori, si les gens rangent bien leurs affaires, ils ne devraient pas oublier qu'ils ont un souvenir chez nous.
Et donc ensuite, comment ça se passe alors?
Eh bien, quand les gens viennent consulter leurs souvenirs, ils ont l'impression de revivre l'émotion que leur a procuré autrefois ce souvenir. Bon, bien sûr, je vous dis ça, mais c'est pas totalement vrai. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même quelques personnes courageuses qui décident de ne pas figer le souvenir. Alors dans ce cas-là, on laisse le souvenir évoluer et prendre la forme qu'il souhaite. Alors on n'y touche presque pas, et le processus d'entretien est complètement différent. Les souvenirs cristallisés sont très fragiles. Il faut régulièrement les dépoussiérer, autrement ils ne peuvent pas résister à l'envie de se moduler. Il faut cependant faire très attention en les manipulant, car la moindre fausse indication leur ferait perdre leur exactitude. On aide parfois le processus en accompagnant le souvenir d'une musique ou d'une odeur, mais ça reste encore assez expérimental. En réalité, nous ne sommes qu'une salle d'archives, mais bon, la demande de revivre l'expérience de l'émotion se fait de plus en plus grande, donc il faut bien nous mettre à jour.
Les souvenirs de ceux qui n'ont plus de maison se traînent dans les bars ou sur les autoroutes à 160 à l'heure. Ils se tiraient sans vous à 160 à l'heure. Tu choisis pas ta route, tu choisis pas ta route. Cette machine à écrire qui tape un manuscrit, ce manteau qui sourit et qui me tend les bras, cette valise où mon âme est pliée sans un pli, cette bougie qui meurt
et qui n'en finit pas. Ce papier que noircit une lettre d'amour, ce crayon malheureux et qui a mauvaise mine, ce miroir qui me parle la nuit et le jour, jusqu'à l'ultime jour, jusqu'à l'ultime nuit. Les souvenirs de ceux qui n'ont plus de maison se traînent dans les bars ou dans le fond d'un lit à 160 à l'heure. Ils se traînent et s'en vont à 160 à la mélancolie, à la mélancolie. Ce parfum qu'on oublie dans le bruit des odeurs, cette larme qui coule et qui sèche à ton bras, ce bijou qui s'ennuie au cou de ton malheur, cette gorge qui s'ouvre et qui n'en finit pas, ce matin qui s'ébat dans l'horreur de la vie, cette ombre de la brume où se perd la mémoire, cette conscience au bout de ce qui t'est permis, ce désespoir enfin qui s'invente une histoire. Ils s'en vont les souvenirs cassés. Ils s'en vont les souvenirs. Allez, comme des chiens perdus qu'on ne reconnaît plus, si ce n'est alors que un tremblement de l'art, un tremblement de l'art. Ils pleurent tous ces chiens qui s'en vont, larmes basses, dans le fond de la brume, on les voit divaguer. Quelquefois ils s'en prennent à leur ombre et demain des soleils amoureux leur lècheront la face. Ils pleurent tous ces chiens qui s'en vont, larmes basses, dans le fond de la brume, on les voit divaguer. Quelquefois ils s'en prennent à leur ombre et demain des soleils amoureux leur lâcheront la face. Et la mélancolie, la mélancolie.
C'est un souvenir qui se passe en Haute-Savoie chez mes grands-parents. Depuis que je suis née, on va se baigner dans un lac de montagne qui est à côté, qui est à genre 5 minutes à pied, et qui a été réaménagé pour qu'il y ait genre des petits pontons, des trucs, enfin genre c'est pas tout à fait... C'est pas la piscine municipale, mais c'est pas non plus le lac perdu que personne connaît, quoi. Et c'est trop bien, il y a des pontons, et c'est mon bonheur de la vie de me mettre sur le ponton chaud l'été. Vraiment, j'y pense toute l'année, à ce ponton chaud. Et m'allonger quand t'es tout mouillé et que tu t'allonges. Là-dessus, c'est le bonheur total. Et ils ont installé notamment une tyrolienne qui passe au-dessus du lac, des deux côtés, et où t'arrives dans l'eau, et tu montes hyper haut, tu te jettes dans le truc, et t'arrives dans l'eau.
Écoute, alors moi, tu sais que mon père j'avais 5 ans plus exactement quand mon père est décédé. Et donc de mon père, je ne garde pratiquement aucune nouvelle, sauf un souvenir de le voir dans son lit, fatigué, etc. Et moi, j'étais au bout de la chambre, puisque la maison était avec sept enfants qui étaient sur place, donc il fallait répartir les enfants un peu de partout, et donc mes parents m'avaient gardé à leur côté. Donc j'ai toujours eu l'impression que j'avais une position un peu privilégiée, puisque j'étais le seul à rester dans la chambre à côté d'eux.
Toi, Gaspard, tu veux me raconter un souvenir?
Bon.
Vas-y, mets ça sur les oreilles.
Tu me racontes un souvenir.
D'accord, mais d'abord Merci. Tu me racontes et après je te raconte. Raconte-moi un souvenir.
Mais de quoi?
De celui que tu veux, le premier qui te vient dans l'esprit.
Quand t'es tombé dans la piscine alors...
Non, je me souviens pas ça.
Moi, j'en ai un.
J'étais tout petit et Gassard, on passait sur une passerelle et Gassard, il était en 13e et il faisait plein d'allers-retours. Et à un moment, il s'arrêtait parce qu'il y avait des dames qui lui bloquaient la route et le guidon de la 13e, il s'est penché. Et quand il a redémarré, il est tombé dans l'eau et il y a un bateau de pêche qui l'a repêché.
C'était haut.
C'est pas vrai.
Non, mais c'était haut.
Haut.
Non, mais t'es tombé de quoi, en fait?
Oh, d'un ponton.
Et c'était haut?
Non.
Ah
oui, il y avait ça. Hein.
Et toi, tu t'en souviens bien?
Non.
Il y a combien de temps?
Bah, je sais pas, j'avais peut-être 2 ans.
Ah ouais, ouais. Et lui, il s'en souvient, lui?
Bah, justement, c'est maman qui doit dire un truc, mais j'ai jamais été repêché par un truc de caisse. Et puis c'est un monsieur, il m'a poussé quand j'allais. Il m'a poussé, je suis con.
Non,
c'était un soir. Au creux du coin, à côté de la chaise, ou à côté du vent. J'avais écarté des mains comme on bouge entre les roseaux. Il y avait entre quelques odeurs, ou non. Il y avait des odeurs entre les roseaux, caché dans le coin du vent, sur la bouche des mains. C'était donc un feu au coin du soir qui s'éteint, comme on peut laisser passer le temps, filer sans se rendre compte, ou alors que... ou bien même peut-être que si.
Nous, c'était rue du Cherche-Midi. On était au premier étage, au-dessus d'un antiquaire. Et le rez-de-chaussée, il y avait la boutique de l'antiquité et sur la cour, il y avait un jardin, un grand jardin. On l'appelait la sorcière, il y avait une vieille dame qui était là. Je pense qu'on devait faire beaucoup de bruit au-dessus de sa tête, elle ne devait pas être contente. Et il y avait 4 pièces. Et on était 8 dans 4 pièces, 8 enfants dans 4 pièces. Maintenant qu'on dit que chaque enfant doit avoir sa chambre, une salle de bain pour 8 et une cuisine. Alors mes parents dormaient dans le salon. Je sais pas comment ils faisaient pour dormir parce qu'à ce moment-là c'était un lit ancien. C'est ça, on dit ça des lits de veuve, à une place et demie, tu sais, avec un lit. Dans la salle à manger, il y avait mon frère Claude qui habitait. Et puis il y avait 2 chambres. Alors dans une chambre, il y avait des lits à étage, 2. Il y avait un lit à 2 places. Il y avait 2, ça fait 4. Et il y avait un berceau, ça fait 5. Et 5 enfants qui dormaient dans la même chambre. Mon frère, ça faisait 6. Et il y avait une chambre qui donnait sur la rue. Il y avait 2 enfants. C'était moi et ma sœur après. 7 et 8. Avant, c'était la chambre de mes parents qui sont allés au salon. Et on était 7 et 8. Mais
j'ai un souvenir hyper précis d'une journée en particulier où j'avais 11 ans. Ça devait être au mois d'août. Donc peut-être j'allais bientôt avoir 12 ans. Et j'ai un souvenir hyper particulier de précisément un moment où je me suis jetée de cette tyrolienne qui était mon bonheur avec un ami de l'époque qui avait pile poil mon âge. Et c'était notre bonheur de faire ces 500 allers-retours en tyrolienne dans l'été, quoi. Et j'ai un souvenir hyper précis de là. Et ce qui est fou, c'est que c'est un souvenir hyper sensoriel. Parce que du coup, je me souviens très bien être sortie de l'eau. Donc mouillée, t'as un peu froid quand il y a le vent qui passe. Mais en même temps, t'as le soleil qui te chauffe et c'est quand même le mélange parfait pour la peau. À porter la tyrolienne qui est un peu lourde, tu te prends un peu les pieds dans le truc, mais qui est agréable avec le métal. Tu montes pieds nus sur des escaliers en métal. Où ça accroche un peu pour pas que tu dérapes et t'as le bruit du métal et de la tyrolienne qui rebondit contre le métal et t'entends les gens qui se baignent à côté, t'entends les voitures qui passent au-dessus et tu montes, t'as l'impression que tu montes des kilomètres jusqu'en haut de ce truc là et on était tous les deux trop contents, c'était vraiment mon meilleur copain de l'été genre, et on s'accroche et il m'avait fait hyper rire parce qu'il avait dit 1, 2, 3 pour qu'on se jette dans le vide et ça m'avait fait hyper rire. Et on se jette, et c'est vraiment l'instant pour moi du bonheur. C'est l'été, je me sens maxi dynamique, maxi heureuse, maxi libre, en même temps un peu rassurée parce qu'il y a ma famille pas loin sur le ponton que je connais par cœur. Et je me jette dans le vide avec mon super copain. Et c'est le bonheur de la tyrolienne quand t'as 12 ans, quoi. Et que t'arrives dans l'eau, ça fait du bruit, tu vois plus rien, t'as de l'eau plein la bouche, t'arrives de l'autre côté. Et ce souvenir de joie intense, quoi.
Une joie intense. Moi, je me rappelle d'une joie intense aussi. Je me souviens j'étais petit. J'avais jamais vu mon grand-père. Je l'ai vu arriver, je m'attendais pas à ça, je me souviens. Il était grand, fin, une gueule, une sacrée gueule de mon grand-père. Il avait un chapeau du printemps arabe. Je m'attendais pas du tout à ça quand je l'ai vu. Je me souviens m'être dit... Ah mais c'est à ça que ça ressemble un grand-père. Après on est allé se balader. Il répétait qu'il fallait bien s'occuper de ma mère. Sûrement parce que lui il l'avait pas assez fait. Il me prêchait les bonnes paroles. On se baladait sur le canal Saint-Martin. Arrive devant un pont qui traversait le canal et il me dit tu passeras dessous, tu passeras au-dessus.
Bon, j'étais très petit et c'était dans une rivière, un ruisseau. Il faisait très chaud. Et l'eau coulait sur des cailloux, de très gros cailloux. Et je sentais avec ma plante des pieds, je sentais physiquement, sensuellement, le grain du caillou qui était sous mes pieds. Et j'ai jamais oublié cette sensation.
Plus fort, plus haut.
On s'était allongé l'un à côté de l'autre et je lui ai pris sa main Et là, j'ai senti quelque chose. Un calme, une sorte de surréalisme, de surréalité. On est l'un proche de l'autre et on voudrait que ça ne s'arrête pas. On voudrait que ça se prolonge éternellement.
Regarde-le, lui, là. Il est en train de dormir debout, là.
Réveille-toi,
oh,
ma vieille.
Tu vas te réveiller, là. Jamais plus je ne serai sûr. Jamais plus. Jamais plus je ne serai sûr de rien. Je ne sais plus. Je suis là. Rien n'est moins sûr. Allez, rappelle. Rappelle-toi de rien, bordel. Si j'avais su, je ne serais pas là. Et puis, si j'avais pas été là, je n'aurais jamais su quoi que ce soit. C'est un puissant trou, un trou sans fond. Un noir. C'est pas comme cette femme-là, dont la trajectoire sait. On dirait qu'elle marche dans ses propres pas. Qu'elle et cet endroit se reconnaissent comme de bons vieux potes.
Bonjour, monsieur. Pourriez-vous m'indiquer le quai 32, s'il vous plaît?
Ah, ça. À part vous dire qu'il est entre le 31 et le 33, parce que bon, les chiffres, on voit tous plus ou moins ce que c'est. Mais pour le reste, va falloir trouver une autre combine.
C'est-à-dire, vous ne savez pas?
Oh non, monsieur. Et si je ne savais, je ne serais pas là. À part le chercher avec vous, je ne peux rien. Je ne peux déjà pas grand-chose pour moi-même. Et j'ai déjà à chercher, alors merci, mais non.
Très bien. Eh bien, bonne journée.
Oui, oui, c'est ça. Bonne journée. Il sait pas la chance qu'il a, lui. Lui, au moins, connaît son prénom. Ah, si peu. Et il ose quand même me demander des trucs. À moi. Le monde est complètement à l'envers. Ou bien c'est moi qui suis à l'envers du monde. Qui sait? En tout cas, pas moi. D'ailleurs, il n'a pas insisté. Que faire?
Bonjour, monsieur. Un peu perdu, je me trompe? Je peux aider? Il n'y a pas d'autre endroit dans ce monde que je connais aussi bien. C'est chez moi, ici. Depuis bien trop longtemps pour que je me souvienne.
Ouf, c'est bien sympa. Mais personne ne peut vraiment rien pour moi, vous savez. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous avez, je le veux, et ce que vous avez pas, je l'ai pas. Ah non, pardon, dans l'autre sens. Ce que je veux, vous ne l'avez pas, et puisque vous n'avez pas, je le veux. Alors, on s'en sortira pas, non, vraiment, ça bloque. Et ça m'embête que ça vous bloque, car j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, me débattre pour trouver une opération additionnelle à votre présence, mais rien ne vient. Vous n'y pouvez malheureusement rien. D'ailleurs, vous voyez, là, on parle, je confirme, hein, vous ne faites pas avancer, quoi. À mon grand regret, il va sans dire.
Oh là là, quel accueil! Qu'est-ce que ça aurait été si on s'était vu demain? Je m'en serais pris une. C'est quoi votre technique, là? Plus les jours avancent et plus vous férocitez. C'est bien le moyen de devenir un vieux con, ça.
Pardon de mon efficacité, mais n'ayant plus grand-chose auquel me raccrocher, je ne souhaite pas en plus perdre mon temps. Sans cela, il ne me reste plus rien pour avancer.
Avancer? Mais vers où?
Vers ce que j'ignore.
Ah, d'accord. Parce que moi, de loin, je vous vois juste tourner en rond, mon pauvre bonhomme. Si bien que les gens vont finir par vous connaître et vous saluer en passant.
Eh ben, qu'ils me saluent. En attendant, ce qui m'importe, c'est pas vers où, mais bien vers quoi?
Bon, ben, vers quoi alors?
Eh bien, justement, c'est là que ça pêche.
Eh ben, vous êtes pas sorti du sable, dites-moi.
Oui, ben, ça va, n'en rajoutez pas.
Bon. Mais vous savez un tant soit peu à quoi ça ressemble? Une idée de texture, au moins, quelque chose auquel se raccrocher, parce que là, j'avoue que la partie s'annonce super compliquée, hein.
Personne ne vous a demandé de jouer, je vous signale. Je suis perdu, oui, peut-être, ça arrive quand on a tout oublié. On se sent perdu, on sait plus ce qu'on ignore, voilà. On avance sans savoir d'où on vient. C'est paradoxal d'avancer en ignorant le chemin parcouru, avouez-le.
Ah bah surtout quand on tourne en rond, hein, ça triple le paradoxe. Allez, cherchez là, cherchez. Mais vous cherchez quoi au juste? Peut-on le savoir?
Eh ben, ce que je sais, c'est que je l'avais dans la main. Et cette chose était rouge. Et je me souviens aussi de son importance et de sa lourdeur. Voilà tout ce que je sais, tout ce que je me rappelle.
Ah bah... Ah, en effet, ouais. Ça va pas être de la tarte, tout ça. Mais vous comptez vous y prendre comment?
Mais comment voulez-vous que je m'y prenne? Je cherche cette chose, quoi d'autre?
Et donc vous décidez de chercher ici? Qui vous dit que cette chose est dans cet endroit?
Je sais pas, moi. Il faut bien commencer quelque part. Et puis, c'est l'endroit où j'étais quand j'ai tout oublié. Pourquoi aller ailleurs?
Bah, c'est vrai, ça. Ça se tient, hein. Et c'est quoi le plus loin dont vous vous rappelez? Moi, je crois que c'est ce fameux jour où ma mère est tombée à l'eau. Je devais avoir 5 ou 6 ans, elle a glissé de son rocher. Je me rappelle de mon père, ne sachant pas nager, agiter les bras, à ne plus savoir quoi en faire. Alors mon frère, avec ses cheveux longs de l'époque, se jeta à l'eau pour la récupérer. Oh là là, mon père était furieux. Il n'avait pas supporté que mon frère sauve ma mère à sa place. Il lui avait même flanqué une de ses beignes une fois entré. Oh, ça, je m'en rappellerai, mais très très bien.
Bon, je vous l'accorde, c'est pas le plus gai des souvenirs. Enfin, c'est déjà ça. Moi, j'ai beau creuser et creuser encore, je n'y trouve que le néant. Tellement rien que mon cerveau fabule encore, de sorte à ce que je ne puisse plus faire confiance. Cette chose rouge et lourde dont je me souviens, c'est la seule qui me reste, comme une empreinte dans le béton. Le reste, je m'y fais pas confiance.
Oh là là! Ah mais vraiment, mais quel bourbier, hein! Mais si vous doutez de ce que sont vos souvenirs, comment allez-vous un jour vous rappeler de quoi que ce soit?
Mais il est hors de question que je fabule à mon tour une vie que je n'ai pas eue. Comment pourrais-je rester moi-même après ça? Ah non, vraiment, je refuserais de vivre un autre que moi.
Je vous trouve bien catégorique, mon vieux. Regardez où vous êtes. Vous errez dans cet endroit comme la misère sur le pauvre monde.
Moi, je n'erre pas. Je n'erre pas. Je cherche la seule chose à laquelle je peux me raccrocher pour avancer.
D'ailleurs, votre truc rouge et lourd, là. Moi, j'ai une petite idée, hein. Ça serait pas juste votre valise, par hasard? Avouez que ça serait cohérent, tout de même. Et puis, vous auriez mis quoi dedans?
Quelque chose de précieux, c'est sûr. Je me souviens de son importance. Je n'ai que le souvenir de mes yeux rivés sur cette chose rouge. Oui, un sac, une caisse, une sacoche, que sais-je. Qu'est-ce qu'on s'en fout à un moment donné?
Oh, écoutez, hein, je fais ce que je peux, hein. Faut dire, ça part de loin, votre truc.
Oui, bah, vous pouvez vraiment peu, mon pauvre ami, hein. Voilà 5 minutes que nous glandons sur place à s'envoyer des fions. En attendant, je connais ni votre prénom, ni je n'ai avancé sur mon affaire, comme vous dites.
Bon, bah, ça vous rend aimable en tout cas. Bah, vous savez quoi? Appelez-moi Bogdan. Nous sommes chez moi, ici, et rien ne m'échappe. C'est moi qui chapeaute le bousin. Alors s'il y a un truc précieux dans cette gare, on le trouvera. Croyez-moi.
Vous n'avez rien de mieux à faire, franchement. Je pense que vous allez perdre votre temps. Mais bon, vous en avez peut-être à perdre, finalement. Allez, en avant.
Bonjour messieurs, je cherche la sortie nord-est. Vous savez celle avec la statue de ce salopard de Napoléon, qui avant était une jolie petite place avec des bancs et des arbres. C'est idiot, mais je ne la trouve pas. La gare aurait-elle changé entre-temps?
Ah là monsieur, vous n'avez pas vraiment misé sur le bon cheval, hein. Piotr n'est pas votre homme. En revanche, je peux vous dire, le mieux d'ici... Continuez tout droit, puis gauche, droite, gauche au fond du couloir, vous longez les attrape-couillons dont Nespresso, Paul, Monoprix et toutes ces conneries. La deuxième à droite, directement côté cour, sans passer par l'intérieur. Sinon là, mon vieux, vous êtes complètement foutu, vous devez faire le tour et tout, c'est le bordel. Et puis pour finir, oui, objectivement, je suis d'accord avec vous, cette statue est à chier. Hein. Je préférais les tons ternes de l'ancienne place, moi.
D'accord. Oui, je crois que je vais me souvenir en y passant. Merci.
Mais d'abord, m'avez-vous appelé Piotr? Ça sort d'où, ça?
Ah, parce que vous vous souvenez de votre prénom.
Non. Mais qui vous a demandé de m'en trouver un? Méfiez-vous de vos fesses?
Oh, vous me faites penser à un vieil ami. Nous étions dans la même cellule de Bois Colombes. Il était polonais, un marxiste révolutionnaire qui ne pouvait pas piffer le social-démocratie allemande. Il rabâchait sans arrêt l'échec du socialisme à vouloir émanciper les classes ouvrières. Il répétait souvent « Ah, si j'avais eu le tsar devant moi, je lui aurais fait bouffer ses orteils de capitaliste. » Il s'appelait Piotr Volski. Il avait cette voix criarde, vous savez ? Celle qui vous lève une foule. Un ton a déclenché une grève. Même les matons ont fait grève grâce à lui. Il fumait ses cigares polonais immondes qui remplissaient la cellule d'une épaisse fumée blanche, si bien que les prisonniers avaient baptisé la cellule le fumoir. Il écrivait des trucs pas cons, le bonhomme. C'est d'ailleurs pour cela qu'il avait été emprisonné. Ils ont fini par l'avoir, ces salauds. Ah, vous l'auriez adoré, c'est sûr. Et puis... Vous avez la même tronche, c'est troublant. Vous auriez un fond polonais, que ça m'étonnerait pas beaucoup, vous.
Alors d'accord. Va pour Piotr. De toute façon, va bien en falloir un. Hein. Et puis, celui qui n'a pas de prénom ne se fait pas appeler. Celui qu'on nomme pas n'existe pas. Voilà. Il n'y a rien de plus réducteur qu'un prénom. Rien de plus étroit. Vous voyez, les mots nous réduisent comme ils réduisent notre monde. Entre la chose et le mot, il y a un fossé, si bien que les choses sont prisonnières de leurs mots. Comme votre ami polonais, réduit à l'enfermement pour ses mots. Ne pensez-vous pas?
Bah moi je sais pas lire. Hein. Et les mots pour moi sont informes, dénués de toute logique, de langage, jamais tenu une plume, jamais fumé une cigarette. Je pense que Piotr y est pour quelque chose. Hein. C'est lui qui me lisait. C'est comme ça que j'ai appris par les mots. Mais il reste pour moi un terrain hostile de la représentation. Pour tout vous dire, je m'en méfie comme la peste. Un petit peu comme vous, avec le souvenir.
Remarquez, moi je ne me méfie en rien du souvenir. Il m'est absent, ça n'a rien à voir. Il s'est retiré de ma mémoire comme la mer se retire à la terre. Je l'ai perdu et maintenant je le cherche. Il est parti et avec lui, le sens a foutu le camp.
Bon, mais rappelez-moi pourquoi on marche en fait. Parce que bon, s'il y a bien un endroit où chercher un souvenir, c'est bien dans sa tête. Hein. Moi, c'est par là que je commencerai.
Bon, j'ai faim, je suis fatigué et j'ai envie de manger.
Ah bah voilà autre chose. Mais Ma parole, vous êtes un phénomène, hein. C'est fou de passer du coq à l'âne comme ça, sans prévenir.
Bon, j'ai envie de manger, c'est tout. Vous allez me laisser tranquille?
Oui, bah, j'ai envie de destituer le président. Et pourtant, il est toujours là, ce con.
Oui, ça n'a rien à voir.
Bon, on va pas discutailler pendant des plombes. Tenez, asseyez-vous là. Bon, admettons que vous fermez les yeux là et que vous vous concentrez bien comme il faut. Replongez-vous dans la lourdeur de cette chose rouge. Rappelez-vous ces odeurs, ces sensations physiques.
Bon, vous allez arrêter maintenant? Je ne vois rien, c'est vide, le néant. Ah, laissez tomber les combines à deux ronds si vous voulez.
Non mais faites un effort, nom de Dieu! Sans ça, on n'arrivera pas, hein.
Mais comment voulez-vous que je fasse des efforts quand vous me jouez le coup de Madame Irma?
Oh, vous êtes pathétique, moi, j'arrête, hein.
Ah non, mais d'accord. D'accord, bon. Je vais essayer. Mais... c'est pour vous faire rester, hein.
Ah bah parce que maintenant, il faudrait que je reste.
Mais vous êtes de loin la seule personne que je connaisse. Donc si vous partez, je recule. Et déjà que je n'avance pas des masses...
Bon. Je reste, mais concentrez-vous, hein.
Très bien, très bien. Allez, allons-y. Faisons ça vite. Sacoche rouge, bien lourde. Je me rappelle de son poids, de... C'est comme si je la traînais.
dormir debout, reportage.
Et toutes ces informations et toutes les personnes qui viennent laisser leurs souvenirs et qui vous les donnent sont gardées de manière confidentielle. Et les souvenirs sont aussi confidentiels. Je veux dire, par exemple, les souvenirs d'un homme politique ou d'une personne qui aurait stocké ces choses-là et qui est su du grand public.
Alors, je vais y venir. Mais pour vous dire, les expérimentations sur la mémoire sont encore assez inexactes. Et nous, on ne sait pas quel type de conservation du souvenir génère le plus d'émotions. En lui laissant son potentiel de fiction, le souvenir peut éventuellement générer une émotion plus importante et plus réelle, je dirais. Mais quoi qu'il en soit, les personnes peuvent venir avec des démarches et des envies très différentes. Donc pour répondre à votre question, une fois le souvenir extrait, il est bien sûr protégé par des licences de droits d'auteur. Cependant, et ça c'est une chose très méconnue de la plupart des gens, il appartient en partie à la salle d'archivage. Et surtout, si l'auteur du souvenir vient à décéder, le souvenir devient de l'ordre du domaine public. Ça c'est une question assez délicate car souvent la famille souhaite récupérer les droits. Mais la loi exige que le souvenir individuel devienne une part de la mémoire collective. Donc celui-ci est protégé par le patrimoine.
Est-ce que c'est possible, c'est déjà arrivé, qu'on réussisse à extraire des souvenirs d'une personne qui était morte ?
Pas à ma connaissance. La démarche d'extraction du souvenir, elle doit se faire de manière volontaire bénévole. Je veux dire, on n'a pas le droit d'extraire de force un souvenir à un corps.
Et autre chose, est-ce que les souvenirs, ils ont une valeur lors d'un procès, par exemple ? Est-ce que les souvenirs peuvent être des pièces à conviction ? Peuvent être des preuves tangibles de quelque chose se soit passé ou pas ?
Alors, tout dépend déjà de la méthode de conservation. Si l'on a cristallisé le souvenir, c'est possible, mais honnêtement, ça demande beaucoup de démarches compliquées et à ma connaissance, très peu de gens se sont penchés sur la question.
Après la guerre, c'était beaucoup mieux. Après, on a échanger, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait personne, il n'y avait pas de construction. Après la guerre, il y avait une pénurie énorme de logements à Paris. Alors, il y avait des petites annonces dans le Figaro, échange 7 pièces contre 4 pièces, cherche appartement. Mais les gens mettaient tous des petites annonces. Et on avait vu que rue de Rennes, il y avait un appartement qui était grand. C'était un journaliste américain qui habitait dans cet appartement et il voulait se rétrécir et il est tombé sous le charme de cet appartement. Rue du Cherche-Midi, c'était joli parce qu'il y avait des pièces qui donnaient sur un jardin, au premier étage, un jardin, c'était joli. Donc on a échangé avec lui et alors là, c'était génial parce qu'il a laissé dans l'appartement un téléphone et un frigidaire. Là, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de frigidaire. Alors le frigidaire, alors ça c'était la révolution. On achetait tous les jours les choses, il n'y a pas de frigidaire. On achetait comme toi de la glace pilée qu'on mettait dans des couvertures, ouais. Dans la baignoire.
On allait chercher de la glace. On allait acheter de la glace dans un spécialiste.
Des pains de glace.
Hein ? Des pains de glace.
Il y a un magasin qui vendait de la glace. Des pains de glace qu'on transportait dans des couvertures. Et moi, je vois mon père, il avait une espèce de pic, là. Il se tapait une fois sur deux sur les doigts. J'entendais « Aïe !» Pour débiter, sa glace était des gros pains de glace.
Oui,
papa, il se tapait toujours sur le doigt. Il n'était pas du tout à droite. Hop, aïe. Et on était chauffés par des poêles. On n'avait pas de chauffage central. Par des poêles, il allait à la cave et montait des seaux de charbon ou des seaux de sûre. La sciure dans des grands bidons, il faisait un trou, et comme ça on avait chaud, je me souviens.
C'était de la sciure qui assurait
la combustion et le chauffage de l'appartement.
On n'avait pas d'eau chaude hein, dans les salles de bain, une espèce de chauffe-eau. Ah, je me souviens, un chauffe-eau au gaz. Alors, une seule salle de bain, pas beaucoup d'eau chaude. Je me souviens quand on était petite, maman nous lavait les cheveux, alors c'était un pot d'eau froide, aïe, un pot d'eau chaude, ouille, paf, je m'en souviens encore, on nous brûlait le crâne. Il fallait que ça aille vite. Pour... Et quand on prenait... Il n'y avait pas de douche. On se baignait tous dans la même... l'eau dans la même baignoire. Hein. Une fois par semaine, on prenait un bain. Pas plus.
Il y a une grosse odeur de vase parce que c'est un lac naturel et que c'est tout, tu sais, tu vois pas le fond, c'est tout vert. T'as les pieds dans la vase. T'as évidemment l'odeur de la crème solaire sur la peau et l'odeur du soleil sur la peau. Mais je sais pas si c'est une vraie odeur ça, si c'est une odeur imaginée dans ma tête. Mais l'odeur de la peau, l'odeur de la peau un peu chaude et des cheveux un peu chauds, un peu genre blondis par le soleil, tu vois. Ce truc de la chaleur de la peau. Et l'odeur du métal un peu mouillé aussi du coup, de quand on monte sur ce truc. Et il y a une vague odeur quand même de frites du restaurant de dessus. Donc je dirais un mélange de tout ça. Il y a les arbres aussi à côté. Mais c'est pas comme en hiver où genre, tu sens le sapin. Parce que là je suis passée cette semaine devant le même lac qui était tout gelé et tout plein de neige. Et c'est pas les mêmes odeurs. Mais là les odeurs de l'été, ouais je dirais que c'est ça. Et quand t'es sur le ponton, il y a l'odeur du bois chaud aussi. C'est difficile de décrire autrement que par un truc hyper subjectif. Mais je dirais que c'est une odeur réconfortante. L'odeur un peu enveloppante, un peu... Je vois des trucs... Pas des trucs... Enfin, des épices genre de la cannelle, mais des trucs sombres. Des trucs lourds qui restent dans la bouche. C'est pas du tout une odeur, du coup, c'est un goût, mais... T'as l'idée.
Pensée, seconde après seconde, une mèche qui s'écoule après une pluie, encore pensée, encore et s'accrocher à ce qu'il reste, encore, juste une fois pensée, comme un bruit qui ne peut pas tenir la cadence, qui s'écoule et qui s'essouffle dans les fréquences après une pluie. encore, une mèche qui coule dans les fréquences, comme un bruit pensé de la dernière minute à la dernière minute, qui s'essouffle malgré l'effort de tenir pour que rien ne se casse, pour que ça reste, pour que ça perdure parmi les secondes. Encore, penser encore et s'accrocher à ce qu'il reste encore, juste une fois, penser, seconde après seconde. Ne pas avoir de regrets, se souvenir d'une pensée, encore penser encore, une dernière fréquence qui s'étouffe entre les secondes pour laisser passer le temps, s'accrocher à ce qui reste de la mèche coulante, sur le dos de sa main, regarder les trous, des trous, un trou dans la main, comme dans la mémoire. On gardera en guise de bracelet les remous infinis du flux de pensées inconstants qui s'effacent comme la mer sur le sable d'un désert imaginaire, coulante, sur le dos de la main. Le son d'une voix, d'une caresse, comme des trous que remplace la mémoire, penser seconde après seconde une mèche qui s'écoule après une pluie, encore penser encore et s'accrocher à ce qu'il reste encore jusqu'à une fois où le bruit qui ne peut pas tenir la cadence qui s'essouffle apparaît dans les fréquences. Ne pas avoir de regrets, se souvenir d'une pensée, encore une dernière fréquence qui s'étouffe entre les secondes, le son d'une voix, d'une main, comme des trous que remplace la mémoire. Pensée, seconde après seconde, une mèche qui s'écoule après une pluie qui va remplir jusqu'au trou de mémoire.
Alors, certaines personnes acceptent d'emblée que leurs souvenirs soient classés dans la mémoire collective et n'importe qui peut alors le consulter. Ce que je vous propose, c'est de vous en montrer un si vous voulez voir comment ça se présente. Donc il s'agit d'un souvenir d'une femme qui avait une cinquantaine d'années quand elle nous l'a confié. Et elle a choisi la méthode de cristallisation.
Donc la méthode de cristallisation, c'est laquelle déjà ?
Elle a choisi, une fois son souvenir extrait, de le conserver à l'identique, tel que raconté, figé dans le temps. Et celui-ci ne peut pas développer de fiction, ne peut pas changer de forme. On s'est retrouvé au mois de mai dans la plus grande rue de la ville où il travaillait. Mon avion avait atterri 2 heures plus tôt, j'avais pris le bus et il faisait environ 25 degrés. Je revenais d'Italie, donc j'écoutais des chansons italiennes. Il sortait du travail, et le temps que je descende du bus, le temps qu'il remonte la rue, nos deux timings étaient parfaits. Nous nous sommes retrouvés pile au milieu de la plus grande rue de la ville où il travaillait, et dans mon casque, il y avait Felicita. Je l'ai vu tout droit devant moi, on a couru et on s'est pris dans les bras. C'était un voyage imprévu, et la température était parfaite.
Ah, ça, c'est le souvenir cristallisé, donc.
Donc ça, c'est le souvenir cristallisé exactement tel qu'il a été extrait. Vous voyez bien, le souvenir est clair et limpide. Pour vous raconter une anecdote sur ce souvenir, cette femme, en prenant le rendez-vous, souhaitait nous le confier et le rendre accessible en tant que mémoire collective, car elle souhaitait que n'importe qui puisse écouter le son du moment précis où l'on retrouve son meilleur ami. Il s'agit d'un bonheur qu'elle ne pouvait pas garder uniquement pour elle, et ressentait le besoin de participer à ce qu'elle a appelé l'émotion collective. Moi, j'ai trouvé ça joli, alors j'aime bien partager ce souvenir.
Alors, on s'est donc mariés. On n'avait pas d'enfants, mais...
Ah oui.
Ça aurait pu arriver.
Ça aurait pu arriver
d'avoir... Mais c'était pas dans nos habitudes. Et bon, ben... on a déjà eu... Tu es revenu... En France.
Accouché, oui, première.
Accouché.
Accouché en France.
Ah, mais c'est beaucoup de responsabilités, hein.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper du bébé, il faut le. Alors Marie-Pierre était là, elle faisait ça parfaitement, mais quand même, il fallait que je l'aide un peu. Je crois qu'on était très contents.
Heureusement.
Hein. Eh ben oui, mais attends.
D'abord, on est très fiers de mettre un bébé au monde. On se dit, c'est moi qui ai fabriqué ça. C'est quand même incroyable de penser que tu fabriques un bébé. C'est donner la vie, c'est un choc. C'est quelque chose qui t'est jamais arrivé, qui tout d'un coup, être mère, donner la vie, donner un souffle, voir à quelqu'un quelque chose que tu as fabriqué qui prend vie. Et puis après, tu vois ce petit bébé qui se transforme de jour en jour. C'est ça qui est incroyable. Et tu n'en as pas... Avant, quand c'est les bébés des autres, tu ne fais pas attention. Mais quand tu vois ton petit bébé, il est tout retréci, il est tout plié, il arrive comme ça. Puis tout à coup, ses bras s'allongent, ses jambes s'allongent, sa tête se redresse, il commence à voir. Tu vois, c'est comme une plante quand tu vois, etc. Mais c'est toi qui l'as fait. Donc ça, c'est un choc incroyable. Je voulais que ça vive, qu'il y ait une ambiance, que les enfants jouent, étant 9 enfants et lui 7 enfants. Et je trouvais que toutes mes amies qui étaient toutes seules, dans des familles seules, elles venaient, je sais qu'elles étaient toujours fourrées à la maison, elles descendaient, elles venaient, parce que ça bougeait, ça disputait, ça criait, ça truc, mais tout seul, avec un bouquin, et des parents qui regardent tout ce que tu fais, la moindre chose que tu fais, elles étaient toujours fourrées à la maison.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Ou mes printemps, ou mes soleils, ou mes folles années perdues, ou mes 15 ans, ou mes merveilles, que j'ai mal d'être revenue. Oh, les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous ma très chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse, hélas. Donc revenu et seul au détour de ces rues, j'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venu ici où mon passé me crucifie? Elle dort à jamais, mon enfant, mon seul.
Sa tasse était encore chaude, le café fume, et son regard contre ses cheveux de verre plonge sans vraiment comprendre pourquoi entre ses doigts poisseux. Je suis assise à cette table. Elle est grande, un peu sèche, je suis seule. Et à travers mes lunettes que j'ai encore oubliées, je perçois à peine le bout de sa chanson. C'est un jour de soleil, un peu comme tous les jours de soleil. J'ai chaud, la lumière est encore là. Et pour mieux supporter l'enthousiasme, je le vois se glisser délicatement des gouttes d'eau sur ses bras dénudés. Je la regarde, sans trop comprendre ce que je regarde. Je crois que je suis content, lui aussi. Il y a encore les volets tombés sous la lourdeur de l'après-midi. Je me lève, je la regarde, je change de place. Elle s'avance, s'adresse à moi, tout à fait normalement, comme un serveur s'adresserait à son client. Une attention bienvenue, conventionnelle, entre la politesse, la gentillesse sincère, un soupçon de charme printanier et le réflexe professionnel pour faire croire au client qu'il est chez lui. Alors, heureuse ? Quand on y pense, c'est une question vraiment étrange. Comment on sait d'abord ? Et puis, est-ce que ça la regarde ? Et il se passe quoi ? Si je dis non, mon moment de solitude va se transformer en séance de psy. Honnêtement, c'est pas une excellente idée de poser cette question aux inconnus. Alors, comme un imbécile, je réponds que oui. Je veux dire, au fond, j'en sais rien, mais je préfère pas devoir expliquer pourquoi si je réponds non. Il rit un peu fort, lentement, elle se penche sur ma table, me débarrasse, et par une maladresse qui aujourd'hui serait connue sous le blason de la fatigue, elle fait glisser doucement son foulard coincé dans les cheveux. Elle ne s'en rend pas compte, et dans son parcours, vient s'étaler avec nonchalance le foulard sur le sol, à la manière d'une feuille séchée par l'été. Je lui ramasse, il me dit merci, puis, soit par un moment d'inattention bienvenue, ou par une volonté inconsciente de laisser échapper sa vulnérabilité, elle me regarde à demi-yeux et me glisse en soupirail. Merci. Attends. Refais ça. Refais ce merci. Ce coin de bouche que tu tires là. Cette manière de creuser la joue, les yeux demi-fermés. Tu peux refaire ça? Cette manière de te baisser sur toi en demi-tour, les genoux à moitié pliés. Comment tu fais? Refais. Refais-moi ce merci. Elle me regarde, se retourne se placer. Ses yeux, grands ouverts, ses cannes sont fébriles. Ça fait des semaines. Enfin des semaines, ça fait des jours. Oui, des jours qu'on répète cette scène. Tu fais trois pas, comme ça, en te retournant. Tu marques un arrêt, comme si tu avais une idée qui viendrait de surgir. Tu l'oublies, et en repartant, tu fais tomber ton voile. Et toi, là, tu te lèves, tu vas lui prendre, tu le ramasses, et prends le temps, doucement. Tu prends le temps de le ramasser. Et toi, tu prends le temps de comprendre que ton foulard est tombé. Tu lui rends ton foulard, et c'est à ce moment-là que tu dis merci. Le même merci, hein. Pas un merci et tu souris, c'est les deux en même temps. Les yeux, la bouche et le merci. Je les regarde fixement. Je me sens trahi par son sourire. La même force que lorsqu'on approche l'iris du Judas pour observer derrière le mur. Je me suis relevé, je l'ai remercié et j'ai continué ma route. J'avais les doigts collés par les courbatures et mon fichu venait me faire tomber mes boucles au-dessus de mes mirettes. Le café sur le comptoir avait été bu par le client ou la cliente. Et elles avaient laissé des pièces. Moi, sans compter vraiment combien ça faisait, je les mets dans la caisse. Personne venait me voir. Il y a la terrasse qui se vide, et je vois par la fenêtre du bistrot des voitures passer. Elle était debout, et n'avait pas remis son tissu dans les cheveux. Elle l'avait rangé. Je suis reparti.